Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous ai annoncé une bonne nouvelle, une surprise pour la nouvelle série de sermons. Je traiterai de la Genèse. Et oui, après l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui est comme un résumé de toute l'histoire du salut, y compris le ciel, nous voici à étudier le premier livre de la Bible, qui est une annonce et presque un résumé de toute l'histoire du salut. Dans la création, Dieu nous révèle non seulement le fait qu'il a créé, mais tout l'esprit qu'il a mis dans la création, la ressemblance de l'homme avec Dieu. Puis il y aura le récit de la chute et de l'annonce de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ qui résume toute l'histoire de l'Église. Et puis après, nous entrerons dans les premiers pas de l'humanité, c'est-à-dire dans les premiers pas de ceux qui sont fidèles à Dieu et de ceux qui lui sont infidèles, avec les récits extraordinaires de ce que Dieu a demandé à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, comment tout ceci lui furent fidèles et comment ils sont des modèles pour nous, chrétiens. J'ajouterai un avantage supplémentaire aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes à étudier le livre de la Genèse, parce que nous aurons sous les yeux la vie extraordinairement sainte d'hommes qui ont vécu de la foi, sans l'aide des sacrements, sans l'aide des institutions ecclésiastiques. Vous me direz qu'ils étaient directement dirigés par Dieu, mais nous le sommes, nous, chrétiens, nous aussi, et d'une façon encore plus parfaite que les saints de l'Ancien Testament, puisque nous recevons le Saint-Esprit dès le baptême. Il prend une possession encore plus complète de nos âmes avec la confirmation, et cette possession se développe également, puisque le Saint-Esprit vient en notre âme à chaque communion en accompagnant notre Seigneur. Le monde d'alors n'était pas meilleur que le monde d'aujourd'hui, au contraire, puisque dès le début, Dieu annonce qu'une partie des hommes se reconnaîtra dans la race du démon, dans les fils du démon, et on le voit bien avec Caïn, puis après ça, avec tous les mauvais que citera la Genèse. Nous allons donc entrer, si vous le voulez bien, dans le toute première parole du récit biblique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces quelques mots sont particulièrement significatifs, particulièrement riches. Le Saint-Esprit, en dictant à Moïse ses premiers mots, met comme un résumé d'une densité exceptionnelle dès le début de ce qu'il a à nous révéler. Au commencement, il ne faudrait surtout pas limiter le sens de ce mot au début du temps. Il ne s'agit pas de la première seconde de la création, de la première minute, si vous voulez, après laquelle il y en aurait eu beaucoup d'autres. Il s'agit du commencement au sens propre et riche du terme, comme le début d'une ligne. C'est le début de quelque chose qui va se dérouler jusqu'à atteindre son but. Ainsi, le commencement d'un cours qui est donné par le professeur, le commencement d'une éducation qui est donnée à des disciples, le commencement d'une épreuve qui doit révéler la qualité des concurrents. Ce commencement ne concerne pas seulement la vie de l'homme sur la terre, c'est aussi le commencement de l'éternité. dans tout commencement, il y a au moins le but. Le commencement d'une épreuve sportive, par exemple, a pour but de révéler le plus rapide, le plus habile, le plus souple, le plus fort. Mais ici, cela va beaucoup plus loin. Dans ce commencement, il y a non seulement un but, mais un plan. Le but va nous être révélé dans les paroles suivantes, à la suite du récit, la ressemblance de l'homme avec Dieu, les paroles « Croissez, multipliez-vous et dominez la terre ». Ce commencement suppose, dans ce cas, puisqu'il s'agit d'une œuvre parfaite et qui doit être parfaitement achevée en ayant été parfaitement conduite, cela suppose non seulement un but fixé, mais un plan dans les détails. Et ce plan, Dieu l'a exprimé dans son Verbe, deuxième personne de la Très Sainte Trinité. C'est pourquoi Saint Jean, lorsqu'il commencera son évangile, qui est comme le début de la création nouvelle, nous avons une première création, vous voyez, avec Adam et Ève, un premier obstacle avec le péché originel, et Dieu, au lieu de reprendre son œuvre là où elle en était, va la restaurer d'une façon plus admirable que celle qu'il avait eue au début. Ce sont les paroles de l'offertoire de la messe. Ô Dieu qui avais instauré la nature humaine d'une façon si admirable et l'avait restaurée d'une façon plus admirable encore, donnez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin de partager la divinité de celui qui a pris part à notre humanité. Ce sont des paroles comme celles de la Genèse, comme celles de l'Apocalypse, qui sont d'une densité extraordinaire. Elles contiennent tout le mystère de la vie divine dans nos âmes et dans le monde. Donc Saint Jean va commencer par son prologue le récit de la création nouvelle, c'est-à-dire de l'Église, plus parfaite que la première création, et il reprend les paroles, le mot de la Genèse, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, celui qui, en s'incarnant, prendra le nom de Jésus-Christ. Le Verbe fait chair, et de verbum caro factum est. Ce plan va très loin, beaucoup plus loin que le plan qu'un ouvrier aurait dans la tête avant de construire la maison, va plus loin encore que le plan qu'aurait un éducateur pour éduquer un de ses disciples, ou des parents pour éduquer leur enfant. C'est un plan par lequel nous serons assimilés au Verbe de Dieu, nous lui ressemblerons, nous serons créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et puisque le Verbe est l'expression de la splendeur du Père, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est être créé à la ressemblance du Verbe divin, splendeur du Père. Vous me direz peut-être, ô monsieur l'abbé, que vous nous embarquez là dans des considérations mystiques. Mais je vous répondrai que ces considérations mystiques, vraiment mystiques, c'est vrai, sont à la portée de tout chrétien, que ce sont elles qui nourrissent, à des degrés divers bien entendu, mais qui nourrissent la vie de tout chrétien. Et Mgr Lefebvre, voyant le drame de la vie chrétienne qui s'effritait parmi tant et tant de bons chrétiens, parce que la crise dans l'Église, c'est une crise de foi qui s'est effritée chez les chrétiens. Mgr Lefebvre n'a pas cherché à rafistoler le mur, il n'a pas cherché à l'étayer par des supports solides. Mgr Lefebvre est monté aux considérations les plus mystiques sur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Je vous encourage à lire son livre « Le mystère de Jésus », dans lequel il médite longuement le mystère de Jésus au sein de la Sainte Trinité. Je vous donne à la fin de ce sermon sur le site un texte écrit par lui sur la création et qui est une pure merveille. Si la foi s'effritait, c'est parce que l'esprit de foi était perdu et s'effritait. Et si l'esprit de foi était perdu, eh bien c'est lui qu'il faut restaurer. Et pour le restaurer, il ne suffit pas de rappeler les commandements. Il faut rappeler le magnifique plan de Dieu, in principio, au début, au commencement. Erat verbum était le Verbe, et c'est en lui que toutes choses ont été faites, continue saint Jean, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Nous avons donc vu, au commencement, il y a un plan. Au commencement était le Verbe. Ce plan, c'est la ressemblance au Verbe de Dieu, splendeur du Père. Et la Genèse continue, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, c'est le Saint-Esprit, Esprit d'amour. Monseigneur Lefebvre monte directement à cette considération de l'amour. Qui dit un plan dit un but, qui dit un but dit un désir, on désire le but. Qui dit désir dit amour, on ne désire que ce que l'on aime. Il ne s'agit pas ici de voir si le désir peut être faussé par les hommes, nous le verrons plus tard, hélas, dans la Genèse avec le péché originel. Il ne s'agit pas de voir si l'amour peut être faussé. Il s'agit de voir que Dieu crée des natures qui ont une fin, qui ont un but. Or, ce but est une perfection. Dieu crée des êtres qu'il appelle à la perfection. Cette perfection est magnifique, elle est divine, elle ne peut pas ne pas être désirée parce qu'elle ne peut pas ne pas être aimée. Et elle ne peut pas ne pas être aimée parce qu'elle est magnifique, elle est belle, elle est divine. Et donc il y a, dès le début de la Genèse, un sens moral qui s'appuie sur la perfection du plan de Dieu. Ce sens moral nous est donné par l'Esprit Saint. Dieu appelle la créature à lui, il l'invite à le suivre, il aime la créature, il lui communique ses perfections par amour. La plus belle des perfections qu'il lui communique, c'est l'amour, et la plus parfaite forme de l'amour, c'est non seulement d'être aimé, de pouvoir aimer, mais de pouvoir communiquer l'amour à son tour. C'est ici que nous avons le sens fondamental, essentiel, des paroles que Dieu dira à Adam et Ève, « Croissez et multipliez-vous et soumettez la terre », c'est-à-dire « Faites comme moi, semez l'amour et soumettez la terre dans l'amour et par l'amour pour la faire revenir à mon amour ». Oh, je sais bien, les modernes n'ont que le mot d'amour à la bouche, et chez eux, très souvent, hélas, cet amour est un mot creux. Mais ce n'est pas parce que les modernes ont vidé le mot amour de son sens que nous ne devons pas, ou nous ne pourrions pas, utiliser ce mot. Au contraire, mais il faut lui rendre la plénitude de son sens, la plénitude de sa richesse, et cette plénitude, justement, nous la trouvons en méditant le début de la Genèse. Cet amour est in principio, au commencement. Il est dans le Verbe de Dieu. Lorsqu'il sera détruit ou effrité, cet amour sera restauré d'une façon plus admirable qu'il n'avait été instauré dans le cœur des hommes. La mission des parents, on pourrait dire la définition de la mission des parents, c'est de transmettre l'amour qu'ils ont reçu, l'amour de Dieu bien entendu, de transmettre la charité à leurs enfants pour que leurs enfants soient à leur tour capables de transmettre la charité. Et lorsque l'enfant est capable de transmettre la charité et qu'il a commencé à transmettre la charité, alors les parents peuvent rejoindre Dieu éternellement au ciel. Alors oui, toutes ces considérations sont très élevées, très riches et très mystiques. Mais justement, la suite de la Genèse va leur donner corps, elle va nous donner des exemples très précis, très concrets de fidélité et, hélas, d'infidélité. Cependant, ces exemples concrets, si on n'a pas la volonté de trouver en eux la richesse du plan de Dieu, la richesse de son appel dans l'amour de la charité, pour semer l'amour de la charité, si on n'a pas cela présent à l'esprit, ces exemples ne nous serviront de rien. Je voudrais terminer par un dernier mot sur les erreurs. Elles sont multiples relativement à la Genèse et surtout relativement à la création. Je ne vais pas vous les énumérer toutes, il y a ceux qui nient l'existence de Dieu, donc évidemment il ne risque pas d'y avoir de création. Il y a ceux qui font de la création une espèce d'émanation divine. Ils réduisent Dieu à être une espèce de lampe d'Aladin qui fume tout au long de l'histoire de l'homme. Et à ce moment-là, nous sommes de la fumée de Dieu. Mais il y en a une qui les résume toutes. Je l'ai trouvée dans un livre écrit par un tenant du judaïsme contemporain qui présente le judaïsme au goy que nous sommes. Et voici la chose la plus importante qu'il dit. La Genèse commence par la lettre A. Aleph en hébreu, A. Pour que vous imaginiez bien comment s'écrit la lettre A, il s'agit d'un carré dont seuls trois côtés auraient été formés. Et cet auteur nous dit, la lettre A a un trait sur le dessus, comme un plafond, pour nous montrer qu'elle ne s'occupe pas des choses supérieures, autrement dit, on ne s'occupe pas de Dieu. Elle a un trait en dessous pour nous montrer qu'elle est fermée aux choses d'en dessous, c'est-à-dire de la matière. Elle a un trait en arrière, alors il faut savoir que l'écriture hébraïque se fait de droite à gauche et non pas de gauche à droite, donc l'arrière pour eux c'est la droite. Mais ça c'est du détail, ça n'a aucun intérêt. Donc elle a un trait en arrière pour montrer qu'elle ne s'occupe pas du passé, elle est ouverte sur l'avenir, à l'avant, et seulement sur l'avenir, c'est ça qui lui importe. Il était difficile de dire en si peu de mots autant de vérité sur l'erreur, si je puis dire, et d'exprimer l'erreur avec une telle concision et une telle perfection. Le Dieu du judaïsme n'est pas un vrai Dieu. Dieu est un être faible pour eux, qui a besoin d'être complété par la force de l'homme. Cela, je l'ai lu dans un autre livre du même genre que le premier, et qui affirme que l'enseignement principal du judaïsme, c'est que Dieu a besoin des hommes. Sans les hommes, il n'est pas parfait, il est divisé, et ce sont les hommes qui lui rendent son unité, c'est-à-dire sa perfection. La lettre Aleph est fermée à ce qu'il y a en dessous de nous, et pourtant la Genèse nous dit que Dieu créa le ciel et la terre, pas seulement le ciel, mais aussi la terre, parce que ces considérations-là sont importantes. L'homme n'est pas un ange, il n'est pas une bête, mais il n'est pas un ange. Les considérations matérielles vont donc avoir pour lui de l'importance, parce qu'elles servent d'escabeau pour monter jusqu'à Dieu. Et si Dieu nous a donné cet escabeau, on ne peut pas le mépriser. Dire que la lettre Aleph est fermée à tout le passé, c'est dire qu'elle est fermée en réalité à tout ce qui est constant. Eux, ils appellent cela le passé, parce qu'ils ne veulent reconnaître que le présent, que l'avenir, c'est-à-dire que ce que l'homme, selon leur conception des choses, apporte à l'humanité pour son évolution, pour sa divinisation. Et si je vous ai présenté cette erreur que j'ai trouvée dans deux livres écrits par les membres du judaïsme, c'est parce que cela est exprimé à la perfection dans le document de Vatican II, Gaudium et Spes. Je terminerai par ces paroles de Mgr Lefebvre, ses écrits plus exactement. Ô Jésus, ô Marie, Aidez-nous à réaliser cette demande du Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin que nos âmes deviennent le temple de la très sainte Trinité, aujourd'hui et pour l'éternité. Puissions-nous, prêtres ou futurs prêtres du Seigneur, vivre dans cette présence active de Dieu omniprésent et tout-puissant. Puissions-nous acquérir un esprit missionnaire qui transmette ce feu divin aux âmes, associant les âmes à la conquête du règne de notre Seigneur, de son cœur sacré et au règne du cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.